Avertissement. Cher public, sachez que durant ce podcast, nous allons dévoiler l'histoire ainsi que tous les secrets du film annoncé. Si vous n'avez pas encore vu et que vous ne voulez pas qu'on vous gâche le plaisir, arrêtez ce podcast maintenant.
Écoutez-moi, c'est à cause de ça, à cause de Nobu et de gars dans son genre, que ce pays part complètement à la dérive. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont décidé de faire passer cette loi. Battle Royale. À compter de maintenant, vous allez tous vous entretuer. Un seul d'entre vous doit survivre. Et tous les coups sont permis.
Вы ж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarts secondes.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le lundi 8 octobre 2012. Bienvenue au deuxième épisode de 24 quarts secondes, le podcast bimensuel dédié au cinéma de science-fiction, lors duquel nous replongeons dans des films et séries que nous avons tant aimés ou tant haïs. Et que, bien sûr, vous pouvez retrouver à l'adresse, sur Internet à l'adresse 24quark.com, quark au pluriel. Et sur iTunes, bien sûr. Et cette semaine, vous l'aurez certainement reconnu, suite à l'extrait qu'on vient de voir, on parle du film japonais Battle Royale. Batoru Royoru.
Bravo.
Batoru Royoru.
Batoru Royoru.
C'est toi qui sais un peu parler japonais.
C'est moi qui sais un peu parler japonais.
Ouais. Donc, le film Battle Royale de Kinji Fukasaku, sorti en 2000. Enfin, en tout cas, sorti dans certains pays en 2000, parce que ça n'a pas été le cas partout.
2010, les États-Unis, je crois, 2009.
Et à côté de moi, vous aurez reconnu sa voix suave. C'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Gariepi. Et aujourd'hui, on n'est que les deux.
Ben oui, salut Nick. Ben oui, on n'est que les deux.
On est que les deux, voilà.
Il y a plusieurs raisons pour qu'on est juste nous deux. Ce n'est pas que les autres n'aiment pas le film. D'ailleurs, on va peut-être essayer d'en parler un petit peu dans un autre moment. Puis on ajoutera ça comme une sorte de post-scriptum à ce podcast plus tard. Vous êtes au courant.
Une petite conversation avec Olivier.
Oui, surtout Olivier, parce que lui, il n'a pas aimé Bataille Royale. Il nous a dit qu'il n'avait pas aimé ça. Donc, et comme moi et Nick, on adore ce film, la controverse.
On est vachement curieux de savoir pourquoi il n'aime pas ça.
Donc, on promet un petit post-scriptum un jour, assez bientôt.
C'est ça.
Sur Bataille Royale.
Alors, avant de plonger dans le film, on va se lire un petit résumé, histoire de se remettre un petit peu en tête l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui serait dommage, parce que voilà, on va tout dévoiler.
On va tout dévoiler.
Mais comme on l'a dit tout à l'heure. Mais, donc, un petit résumé tout d'abord, et c'est un résumé qui vient de IMDb, un peu comme d'habitude. Dans un avenir proche, les élèves de la classe B du 3e du collège Shiroiwa ont été amenés sur une île déserte par une armée mystérieuse. Un adulte surgit tout à coup devant eux, leur ancien professeur Kitano. Il leur annonce qu'ils vont participer à un jeu de massacre dont la règle consiste à s'entretuer. Seul le dernier des survivants pourra regagner son foyer. Voilà. En gros, c'est ça l'intrigue. Alors évidemment,
c'est assez parlant.
Ouais, c'est ça.
Ça résume bien le film.
Alors, avant qu'on commence à en parler, à rentrer dans la discussion, tout d'abord, je voulais savoir un petit peu quand est-ce que tu as vu ce film pour la première
fois. C'est de ta faute.
C'est de la faute à
Nick. Parce qu'une fois, Nick m'a passé plein de ses films préférés, plein de DVD, parce qu'il partait en vacances. Puis il m'a dit, tiens, prends ça pendant que je suis partie. Fais-toi une culture, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'écoutais que des Bergman, Fellini et tout. Je manquais de culture un petit peu. À une certaine époque. Non, je déconne. Mais je l'ai vu en DVD. Il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être une couple d'années que tu m'avais passé ça justement et tout, et j'ai adoré ça. J'adorais ça. Et en plus, moi, je suis une fan du Japon en général. Je suis en train d'apprendre le japonais. Je lis des mangas. Je perds beaucoup de temps
à
écouter des animations japonaises et des choses comme ça. Donc, ça, j'apprécie cette culture-là d'autant plus.
C'est bien, ça tombe bien.
Finalement. Et toi, Nick, tu l'avais vu quand, ce film?
Moi, je l'avais vu. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu en DVD. Et je n'ai pas regardé l'année spécifique du DVD, de la sortie
du DVD.
Mais
je pense que c'est sorti en cinéma ici.
Ben moi, j'étais en Europe à ce moment-là, j'étais encore en Suisse.
En 2000, tu étais en Suisse.
Fait que la première fois que je l'ai vu, c'était en DVD, quand il est sorti en DVD en France, en Suisse.
Mais penses-tu qu'il y a eu une sortie en salle en Europe?
Je ne me rappelle pas s'il y a eu... Je sais qu'en France, il y a eu une sortie en France. En France, typiquement, ils adorent ce genre de, ce genre de film, tu sais, qui dérange et tout. Donc, il y a un circuit pour ça.
Oui.
Et puis, la France, est... enfin, l'Europe en général, c'est connu pour...
Mais si c'était une sortie, c'était vraiment dans des petites...
Oui, c'est les petites salles, les petites salles RSA, comme ils appellent ça un peu par ici.
Puis quand on sait que c'est un des plus grands succès du cinéma japonais au box-office, ça aurait peut-être pu mériter une sortie un petit peu plus audacieuse. Anyway, continue.
Oui, c'est ça. Donc, mais moi, je l'ai découvert en vidéo, en fait. Enfin, en DVD. Donc, je pense peut-être... Je ne sais pas si c'était dans l'année de la sortie ou l'année d'après. Enfin bref, en tout cas, voilà, je l'ai découvert en DVD. Puis à l'époque, ben... je connaissais un peu le cinéma japonais, mais c'était plutôt le cinéma Kurosawa. de Ozu, tout ça. Peu de films d'action. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait encore, s'il y avait déjà à cette époque des films un peu underground, à la Tetsuo et tout ça. Je ne sais plus de quand ça date exactement. Ces films cyberpunk, tu sais.
Je pense, je veux dire n'importe quoi.
Je ne sais plus si ça existait déjà ou pas. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé le...
Je pense pas que Battle Royale est un initiateur d'un genre. Je pense qu'il fait partie. C'est Beat Takashi qui joue dedans, qui lui est justement...
Beat Takashi, tu dis, toi?
Ben, c'est son personnage, son nom d'acteur.
Ouais, je sais. Excusez-moi, moi, j'ai... Je croyais toujours que c'est Takashi Kitano, d'ailleurs, son nom d'acteur.
C'est Takashi Kitano.
C'est Takashi Kitano?
C'est son nom réalisateur, acteur. Pour... Okay. Beat Takashi, c'est le personnage, c'est comme son surnom et tout.
D'accord. Donc, c'est ça. Donc, je connaissais, typiquement, Takashi, je le connaissais de d'autres films. Tu sais, j'avais vu d'autres films avec lui à l'époque.
Ben, c'est ça, donc...
Et puis, j'en ai vu par la suite aussi. Et quelqu'un que j'aime bien, d'ailleurs. Et c'était la surprise de voir un film qui brise des genres ou qui brise des stéréotypes. C'est ça qui me plaisait beaucoup, en fait. Au-delà de la violence extrême qui était assez genre...
Qui surfe sur tous les clichés, les stéréotypes.
Ouais, c'est ça, mais...
Qui rentre dedans à fond, vu le sujet, l'histoire.
Je veux dire, typiquement, la scène qui est une de mes scènes... Je ne vais pas dire préférée, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, les scènes qui m'ont le plus marqué, c'était le...
T'as honte de dire préférée parce que c'est tellement gore.
Ouais, ce n'est pas le mot préféré, mais en tout cas, la scène qui m'a marqué, la première fois que j'ai vu le film, c'est bien sûr toutes les morts... surprise en fait, du tout début en fait, choc vraiment, tu sais, genre la mort de Nobu, la mort de la fille qui se fait, tu sais, où Takashi lui-même lance le couteau sur la première fille, tu sais, la première victime. Mais c'est la scène dans le phare, la scène de fusillade entre les petites collégiennes là.
C'est probablement la meilleure scène.
Pas les collégiennes, ça. Les petites écolières.
Les écolières, ouais.
Ça, c'est comme.
On est parti, on est prêt à parler du film. Mais justement, on pourrait montrer un extrait, comme extrait. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, allons-y. Alors, on va.
Je pense que c'est cette scène-là.
Écoutez un petit. Est-ce qu'on regarde cette scène-là d'abord?
Bah ouais.
Bon, allez, on regarde cette scène-là.
Ah! La violence féminine.
Non, mais juste de voir... Non, mais, bon, alors, c'est ça. En fait, ce qui est super intéressant dans ce film, et ce qui probablement est une des choses... Bah, au-delà de la violence qui a dû provoquer la controverse à l'époque, qui fait que ça a été pas forcément banni, parce que je sais qu'en Amérique du Nord, ça a, ou en tout cas aux États-Unis, ça n'a pas été banni, c'est simplement les distributeurs ont été... ont pas voulu se lancer dans le truc.
À cause de Columbine.
Aussi, ouais, parce que ça venait juste après.
Ça faisait un bout de temps, mais je pense qu'à cause de Columbine...
Ouais, c'était peu de temps après Columbine, donc c'est sûr que c'était troublant. Quoi.
C'était encore... À l'époque, c'était encore quelque chose. Puis aussi, tu avais le 11 septembre qui venait d'avoir lieu.
C'est ça.
Début.
Non, le 11 septembre, c'était...
C'était juste après.
C'était l'année d'après.
Mais donc, toute possibilité de distribution, tu avais Columbine avant. Après ça, tu as eu le 11 septembre. Donc, quand bien même qu'il aurait voulu le distribuer plus tard, c'était impossible dans le contexte américain. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème.
Ouais, donc, c'était pas tellement... Le film n'était pas banni, c'est juste que voilà, ça tombait mal. Les gens n'étaient pas prêts, les distributeurs étaient frileux. Et donc voilà, mais c'est sûr que ce qui est intéressant dans ce film, c'est la manière dont ça... D'abord, est-ce qu'on... En fait, juste pour partir un petit peu à la base, peut-être pour rentrer directement dans la scène du phare, mais... est-ce qu'on peut parler d'une dystopie? Parce que au début du film, ils disent comme quoi le Japon va mal, il y a 15% de chômage, il y a 800 000 élèves qui se révoltent.
Pourquoi l'avoir choisi dans un podcast sur la science-fiction? C'est quand même un peu la question. Tu sais, on va pas avoir le petit collier et tout. Moi, c'est parce que c'est le côté dystopique. C'est pas le côté genre qu'il y a une petite technologie. Puis, oui, il y a le côté jeu vidéo. Pour moi, c'est un film qui a une structure d'un jeu vidéo parce qu'il y a l'effet du jeu.
C'est
le jeu de la mort, mais ça reste un jeu et tout, hyper violent. Et ça reprend beaucoup des clichés du jeu vidéo aussi avec les guns et compagnie, tu sais, les armes que tu trouves, que tu changes, petit côté énigme, le côté aventure. Donc, ça va bien avec la science-fiction, je trouve. Mais c'est vraiment la dystopie, là. C'est l'idée d'une société qui va à l'extrême.
On parle pas de la evil company, là, tu sais, qui gère tout.
Non, c'est vraiment... Là, c'est le gouvernement. En fait, c'est les adultes contre les jeunes, tu sais. Ouais. C'est les adultes qui en ont marre des jeunes. Puis ça, c'est une société comme vraiment parallèle. Un univers parallèle qui est créé. Puis ça, dans cet univers-là, c'est de l'absurde, il y a du sens. Il n'y a pas un adulte qui se pose la question, on exagère. Moi, j'aime la scène qui dit, on a prévenu vos parents.
Oui, je l'ai noté aussi. Je l'avais noté aussi.
Un détail.
Vous inquiétez pas, vos parents sont prévenus. C'est comme, wow!
Vos parents sont prévenus. Il n'y a pas de réaction du genre, mes parents vont venir me sauver. Il y a vraiment là, comme une déconnexion entre les deux générations. Là. Ouais. Et donc, d'où le genre dystopie, oui.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a cet aspect-là qui me plaît déjà, parce que c'est un genre de la science-fiction qui me plaît bien. Mm-hmm. Et puis, ouais, cette espèce de... Enfin, futur très proche, finalement, presque...
Collé sur notre réalité.
Ouais, t'es. C'est ça. Il y a même... en fait, de le revoir là maintenant, c'est bien parce qu'il y avait quelques petits détails que j'avais oubliés. J'avais l'impression de me souvenir à l'époque que il y avait un peu plus la présence des médias dans l'histoire, mais en fait, c'est juste au début, évidemment, c'est médiatisé, mais je veux dire, pas le jeu en lui-même, ça devient pas un truc que le public regarde.
Non, c'est ça, mais
c'est le résultat, finalement, qui est quelque chose de médiatisé. C'est genre, la toute première image du jeu que tu vois, c'est genre la petite fille qui a survécu avec son petit nounours, là, son petit doudou.
Mais oui, il y a comme une sorte de mystère par rapport à ça, parce qu'on voit que les gens armés les entendent, ils entendent ce qu'ils font, puis tant qu'on peut... Ça, c'est personnel, mais moi, j'imaginais que c'était quand même suivi.
Okay.
Tu sais, parce qu'ils annoncent les morts à chaque jour, donc t'imagines que...
C'est pas que pour eux, finalement.
C'est ça, tu peux t'imaginer que c'est suivi dans le reste du Japon.
Il n'y a pas de direct allusion à ça, mais tu peux...
C'est ça, c'est pas là. Donc, tu sais, c'est pas un élément narratif, c'est comme un élément en dehors de la narration que toi, tu peux, en tant que spectateur, te dire, il y a peut-être une folie médiatique autour de ça, mais... Nous, on regarde l'expérience, quoi. On regarde pas les médias.
Ouais, du coup, ça
pourrait presque être des spin-offs amusants à faire autour d'un bataille royale ou est-ce que ça se passe juste dans les médias. Anyway.
Ouais. J'ai pas vu le... Parce qu'il y a eu une suite qui a été réalisée.
Non, j'ai pas vu la suite.
Là, j'ai pas vu la suite non plus. Donc, cette suite qui a été réalisée par le fils de Fukasaku, si je me trompe pas.
OK.
Quelques années plus tard. Mais je sais pas si là, n'ayant pas vu le film, j'ai aucune idée si... Il y a une référence aux médias de manière plus proéminente ou pas. Donc,
on regardera le film, on le saura.
Ce sera intéressant de voir.
Autre chose que j'avais remarqué dans ce film-là qui me plaît bien, c'est les protagonistes. La manière dont... C'est un film à sketch, en fait. Mais souvent, ouais. on est typiquement dans une autre structure. T'sais, souvent, dans les films, ben, on vous entend, c'est la bonne vieille théorie du drame d'Aristote, si je ne me trompe pas, qui avait... bien sûr, c'est Aristote qui a fait ça, voyons. Où est-ce qu'il avait décrit que tu as ton héros, qu'il y a une quête, qu'il doit se battre contre des obstacles. Puis moi, j'aime toujours les films qui cassent un peu ça, parce que dans ce film-là, les héros sont un peu anti-héros parce que c'est deux personnages qui ne veulent pas tuer. D'ailleurs, ils ne tuent personne.
Ouais, ou par accident. Ouais.
Ben, par accident, mais c'est pas clair. Ouais, ouais, ouais. C'est pas clair. Il tue par autodéfense, si tu veux, mais ouais. ils vont pas attaquer. Puis la fille, ouais. elle, elle tue personne. Ouais, c'est le personne, truc, ouais. elle le tue personne.
Ouais, elle, c'est un peu le symbole de... Elle, finalement, elle représente un peu le stéréotype de la petite écolière. C'est un peu genre...
Gentille, qui est un peu amoureuse de son professeur en plus.
La petite vierge,
ouais. La petite
vierge qui fait de mal à personne puis qui parle juste...
elle est hyper stéréotypée.
Un crush sur comment
puis
il s'appelle.
Puis les gars gentils l'aiment bien. Ils ont un petit crush pour
sur
elle.
Sur Chouya et tout ça.
C'est celle qui va se marier puis qui va être une bonne
ouais,
femme.
Exactement.
Une bonne petite épouse.
D'ailleurs, c'est un peu...
Donc, en fait, c'est ça, t'as... Ces deux personnages-là sont pas au contrôle de ce qui se passe. Hein. Ils posent pas d'action, ils sont ballottés par les événements, par les ouais. autres, ils sont comme pris en charge. Et il y a plein de petites scénettes, on les quitte souvent. Hein? On reste pas tout le temps avec eux. Là, le réalisateur prend le risque parce que de dire, vous avez pas besoin de vous identifier tant que ça à eux. Moi, je vais prendre le risque de vous montrer plein d'autres personnages parce que dans le principe aussi, on se fait toujours dire quand on écrit des scénarios, c'est important que ton personnage principal s'identifie à lui. Donc, que tu le suives tout le temps. Mais non, il quitte beaucoup plus. On voit plein d'histoires des personnages qui n'ont même pas d'interaction avec nos deux héros. Comme par exemple, cette fille qui court dans le bois puis qui est amoureuse d'un gars puis que l'autre qui est amoureux.
Tu l'as vu une fois au début.
Tu l'as vu vite au début, puis là, après ça...
Et là, après, tu la retrouves de manière plus... En fait, il crée un arc dramatique juste pour ce personnage-là,
juste pour
mais
ce personnage-là.
C'est très court, finalement.
C'est très
ça
court,
dure
c'est très
minutes.
Intense. Ouais. Puis c'est devenu une des muses de Tarantino. Enfin, mais Tarantino l'a vu, il l'a adoré, il l'a pris pour Kill Bill
ouais,
et tout.
C'est vrai.
Mais c'est un petit arc dramatique avec une musique extraordinaire d'opéra qui crée toute une émotion autour de ce personnage-là. Ouais. Puis il y a beaucoup de musique d'opéra, on va revenir sur la musique.
En plus, quand
on
revient à ce
personnage... Qui touche à toutes ces petites scénettes-là, ouais. que chacun a un leitmotiv. T'as pas des musiques disparates. Au début, je trouvais ça disparate, mais c'est vraiment une construction musicale autour de toutes ces histoires-là. Et bref, moi, ça m'a plu énormément, cette déconstruction-là narrative complètement, que t'es pas dans un truc habituel, t'es vraiment dans un film à sketch,
ouais.
mais fluide, là. Tu le sais pas, là. C'est pas un film à sketch, que genre sketch numéro 1, sketch numéro 2, sketch numéro 3. Donc, il trippe.
Ouais,
tous ces petits personnages, ils sont formidables,
c'est pas non plus une narration
non
linéaire, la Tarantino. Ça reste linéaire, mais tu jumpes
d'une
place à l'autre. Ouais.
Ben,
d'un arc dramatique à l'autre.
C'est ça, d'un arc dramatique à l'autre, etc.
Avec a priori des personnages qui sont totalement secondaires.
Qui ont une histoire complète qui est créée pour eux à ce moment-là.
Ouais.
Donc, comme tu dis, la scène dans le phare et tout, oui, on a notre héros, mais il n'est pas présent quand tu vois cette espèce d'explosion
quand
de paranoïa féminine.
C'est incroyable, cette scène. Quoi. Tout part avec, genre, une erreur.
Ou une autre de mes scènes préférées, c'est la scène où est-ce que t'as le gars qui va rejoindre la fille, il la cherche, hein, il y a le GPS,
puis
il cherche la fille qu'il aime, puis elle le tue. Puis là, il lui annonce, mais je t'aimais. Puis là, il était comme, mais tu me l'as pas dit. Comment je pouvais savoir? Tu me parlais jamais. Puis là, il meurt.
Ouais, ouais, non, c'est complètement, ça va complètement à l'envers. Mais ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, t'as un peu ce stéréotype dans pas mal de médias au Japon, enfin, il me semble, en tout cas, de ce qu'on en voit ici en Occident. Tu sais, justement, ces relations affectives entre les écoliers, les collégiens, tout ça.
Bon, on a ça partout dans le monde, remarque.
Ouais, mais c'est toujours très mignon, très gentil. Et puis là, tu as cette dimension de violence qui se rajoute là-dedans,
oui.
tu sais, qui vient comme tout briser.
Oui, oui, c'est un film de high school, là, tu sais,
ouais.
genre, comme avec une couche comme pas complètement par rapport.
Ouais, et puis les personnages sont beaucoup plus riches que ce qu'on a l'habitude d'en voir dans, on va dire, pas dans le traditionnel japonais, mais dans pas mal de choses auxquelles on a accès ici en Occident par rapport au cinéma japonais ou aux médias, mm-hmm. à différents médias, c'est que, tu sais, il y a cette espèce de stéréotype de l'homme qui suit la norme, surtout l'homme en costard qui est un peu considéré comme celui qui suit la norme, quoi. Il y a la femme qui est un peu soumise, mm-hmm. qui a pas une grande présence finalement.
Tu parles de stéréotypes qu'on... Mais ça, c'est des vieux stéréotypes des années 80. Je pense que quand tu consommes la culture de la manga, des animations et tout, là...
C'est sûr que là, oui, ça délire, mais...
Ça a beaucoup évolué, en fait. T'sais.
Mais j'aime bien... Le personnage de Kitano, par exemple, je trouve qu'il représente assez ça, cette espèce de vieux Japon, tu sais, oui, mec sans émotion, tu sais, qui éprouve aucune émotion, qui est extrêmement, tu sais, qui est très sobre et tout ça. Puis à côté de ça, t'as Kawada et puis Shuya, tu sais, les deux garçons héros finalement là, ceux qui finissent, qui eux sont super expressifs, tu sais, qui sont vraiment, tu sais, qui passent par toutes les émotions.
Ouais. Moi, je sais pas de connaître le Japon, la culture. On va faire un petit parenthèse sur la culture japonaise. Ça, c'est un truc. C'est vrai qu'on a toujours le stéréotype en Occident des Japonais qui sont très froids et tout. Mais même quand tu regardes les films de Kurosawa qui datent des années 60, c'est bourré d'émotions. Voyons, les sept samouraïs, là, tu te rappelles. Je pense que les Japonais sont hyper émotifs, plein d'émotions. C'est juste qu'on confond des normes sociales. Parce qu'il y a des manières de communiquer, il y a des manières de s'exprimer. Puis il y a toute une culture de la politesse, du rapport à l'autre qui est tellement différent d'ici que pour nous, c'est vu comme étant quelque chose qui inhibe les émotions. Mais je ne pense pas que c'est le cas, de mon feeling. Puis c'est clair qu'en fait, des films comme ça, nous, justement, peuvent surprendre ces clichés-là qu'on a, nous, de ça. Ouais. Mais au-delà de ça, je te dirais même par rapport au high school, le secondaire, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que des personnages, on est loin de Beverly Hills où est-ce que tout le monde il est beau là, puis il est parfait. Ouais. Il a vraiment été cherché. T'as vraiment une école, tu sais, genre avec des grands, des beaux, des petits, des.
Ouais, il y a vraiment. C'est très réaliste finalement, quoi. Je veux dire.
Des nerds, des. Ouais. Des
Et en plus, ils ont tous un petit peu. Ils ont tous un peu leur rôle, tu sais. Ils interviennent tous dans l'histoire en amenant un petit peu leur nerditude, j'allais dire, leur spécialité. Comme par exemple, t'as les petits génies, les petits hackers là, qui vont essayer de rentrer dans le système, qui sont en groupe, là, les petits nerds, tout ça.
T'as les petits nerds, t'as la fille qui est la slot, t'as la fille qui est la gang des filles gentilles. T'as les deux qui veulent que la paix, puis qui appellent tout le monde, on va régler ça. T'as le gars qui est vraiment le méchant, là, qui parle jamais le bum. T'sais, t'as tous ces clichés-là, mais ils sont hyper bien casté, hyper bien campé. Ouais.
Ce qui a fait la controverse aussi à l'époque, c'est que c'est censé se passer avec des jeunes d'une quinzaine d'années et pas mal des acteurs ont stage là.
Okay.
Pour eux, c'était, paraît-il, une première expérience, peut-être pas de cinéma, mais en tout cas de film d'action, ça c'est sûr. Puis ils s'en tirent vraiment bien, moi je trouve.
Il y avait un chanteur qui était supposé faire un des rôles, je ne me rappelle pas lequel. Et Nobu, je pense qu'il était supposé faire Nobu, puis le gérant n'a pas voulu qu'il joue dans le film, donc il a vu le scénario.
C'est pour détruire son image.
Mais il a dû le regretter après, parce que je l'ai dit vite, mais ce film-là fait partie des 10 films qui ont eu le plus de succès au box-office au Japon. C'est pour ça que je disais que c'est quand même hallucinant que ce film-là n'ait pas eu une sortie. T'sais, je veux dire, Amélie Poulain, ça a une sortie internationale quand même, là, à sa façon, tu sais.
Mais je ne sais pas si le cinéma japonais... Maintenant, c'est différent, mais... À cette époque-là, je ne sais pas si le cinéma japonais était déjà regardé comme on pouvait voir le cinéma français, qui est quand même.
Mais le cinéma français, nous, on le voit parce qu'on est francophone, mais des sorties américaines de cinéma français, c'est assez rare, j'imagine.
Mais bon, en plus, un film controversé comme ça, d'arriver en Amérique du Nord, c'est pas facile, bien qu'il y en a de la controverse dans certains films américains. Mais c'est ça. On parlait des émotions juste avant. C'est marrant aussi l'utilisation des intertitres, tu sais, des cartons.
Tout
à coup, quand tu as une scène poignante, puis boum, tu vois un carton avec inscrit...
La traduction, c'est écrit le nom de la personne, puis ce qui est mort.
Non, pas ça.
Ah, pas celui-là.
Tu sais, à certains moments du film, typiquement, c'est quand il y a un moment poignant, genre à la mort de Nobu, tu sais, t'as Shuya qui va le prendre dans ses bras.
Oui.
Tu sais, il sort la photo qu'ils ont faite dans le bus un peu plus tôt. Et puis, tu sais, il a la photo pleine de sang et tout. Puis il est là, puis il le tient dans ses bras. Et il dit, je ne me rappelle plus de la phrase exacte qu'il dit, mais je ne sais plus si c'est pourquoi toi ou je ne sais pas quoi. Et tout à coup, tu as l'écran noir avec inscrit le texte de ce qu'il vient de dire, finalement.
Ah oui,
c'est comme il répète. Et puis, tu as une voix off qui répète... La pensée ou ce qu'il vient de dire à ce moment-là. Parfois, c'est celle de la personne qui vient de mourir. Et parfois, c'est celle de l'autre, de celui qui est à côté. Celui ou celle qui est à côté.
OK, je vois ce que tu veux dire. Ça ne m'a pas marqué. Moi, ce qui me marque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ça, ben,
tu as le nom. Inscrit sur l'écran, tu as le nom de la personne,
le numéro de la personne qui est mort et tout, avec son nom.
Ouais.
Puis ça ponctue complètement le film, ça.
Ah, c'est clair.
Un petit côté poétique, moi, je trouve.
À quel niveau?
Ben, en même temps, c'est ça. C'est un autre truc que je veux dire, parce qu'on en parle de façon sérieuse, les acteurs, mais c'est une comédie aussi. C'est à prendre tellement un deuxième niveau.
Au deuxième degré, oui, c'est clair.
C'est comme si tu prends ça au premier niveau, tu vas trouver, c'est surjoué par bout, mais surjoué volontairement. Le metteur en scène veut que les comédiens exagèrent, ils crient un peu trop, pleurent un peu trop. C'est burlesque à la limite. À la limite du burlesque. C'est pas du tout un film réaliste. C'est pas qu'on, tu compares pas ça à Elephant, par exemple.
On est d'accord.
On n'est pas du tout dans du Elephant. On est plus dans du Clockwork Orange, par exemple. Est-ce que les gens ont vu un film comme Clockwork Orange en se demandant « Devrais-tu en rire ou pas? » Pour moi, c'est un peu le Clockwork Orange du Japon, d'une certaine façon.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, probablement. T'as probablement raison. Moi, je l'ai vu en japonais et en français. Parce que j'avais envie de plus faire attention aux images, etc., d'être moins obligé d'y retourner sur le sous-titrage. Donc, je l'ai vu en français. C'est sûr que c'est complètement différent. Enfin, le jeu est vraiment différent. Ça, c'est comme un jeu occidental sur des acteurs japonais. Il y a un truc qui ne colle pas. Mais en même temps, ça te permet de suivre un petit peu plus.
Comment t'as trouvé
plus
la photo, justement?
Il y a un côté très brut, très...
Moi, il me plaisait bien.
Il y a quelques scènes où tu sens qu'ils sont soit sur... Pas écran vert, mais ils seront soit en rétro-projection, enfin en projection arrière, ou alors ils ont dû... Enfin, la lumière, tout à coup, elle casse un petit peu par rapport au reste de la scène. Tu sens que ça n'a soit pas été fait le même jour ou pas au même endroit, ou avec des conditions météo différentes. Mais globalement, j'ai bien aimé le côté un peu sale, je dirais, un petit peu brut, c'est comme ça, de la photo, tu sais.
Il était dans un lieu intéressant. Ils ont tourné sur une île formidable qui est une île abandonnée, en fait, au Japon. C'est connu. C'était une sorte de ville...
Une ville fantôme!
Une sorte de ville fantôme, oui. C'est un endroit...
Mais ouais, en tout cas, c'est super intéressant.
Ça fait partie des endroits abandonnés immenses là, que tu vas sur Internet puis tu cherches ville abandonnée, ville fantôme et tout. Là. Cette île-là sort dans les... parce qu'il y a un phare, tous les bâtiments, ils sont là. Donc, ils s'en sont bien servis. J'aime bien la métaphore aussi de la colonie. Ils s'en vont en vacances et tout. Puis, tu sais... Le jeu est ridicule. Tu sais, genre, bon, t'as des zones où est-ce que tu peux mourir. Il faut qu'il y en reste juste un à la fin. Je veux dire, toutes les règles et tout. Vous allez chacun avoir une arme, mais elle est différente.
Puis la présentation du jeu.
La présentation du jeu.
Rien que la petite vidéo de présentation du jeu, c'est à mourir de rire. Quoi, avec la fille qui parle comme dans un manga, là, comme à la télé. C'était comme
télé japonaise, à toute bonne humeur.
C'est super drôle. Enfin, il y a vraiment une espèce de...
Mais c'est là que je te dis qu'il y a de l'humour. C'est un humour décalé. Puis là, tu les vois à un moment donné, ils sont comme tout paniqués et tout. Puis là, ils sortent leur carte, qui est une petite carte de couleur et tout. Puis là, ils écrivent le coin où ils ne peuvent plus aller, sinon ils vont mourir, la zone dangereuse.
Tout à coup, ils sont super bons avec les cartes. Genre, ils savent utiliser une carte parfaitement.
Ben, t'as peut-être intérêt aussi.
Ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, mais ils comprennent tout.
Au Japon, l'éducation, c'est bon. La géographie, ils doivent. Maîtriser
peut-être,
ça.
Peut-être.
Non, mais oui, mais il y a le côté justement éducation, terrain, tu sais, ça va jouer là-dessus.
Bon, c'est sûr qu'il y a plein d'invraisemblances de ce genre-là, là, plein de trucs où tu peux vraiment en rire.
Là, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu de la misère. Puis s'il nous arrive avec toutes les invraisemblances.
Ouais, mais c'est pour ça que je me réjouis qu'on puisse en parler avec lui. Ça ne sera pas tout de suite, mais pour que justement, j'aimerais savoir pourquoi il n'a pas aimé ça. Est-ce qu'il l'a pris au deuxième degré ou pas? Est-ce que, tu sais.
Peut-être c'est pas genre
son genre. Peut-être. Mmh.
Mais moi, j'adore le petit côté jeu vidéo aussi. La musique aussi. J'en ai parlé tantôt aussi.
Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai. La musique, absolument. L'utilisation d'air classique connu.
Tu sais que c'est le compositeur qui a fait ça. Il travaille toujours avec l'Orchestre philharmonique de Cracovie.
Ça n'est pas n'importe quoi.
Si je ne me trompe pas, c'est bien ça qu'à Cracovie.
Mais c'est marrant parce que j'ai senti plein de... Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste mon oreille
Varsovie. L'Orchestre philharmonique de Varsovie. Vas-y.
Je ne sais pas si c'est mon oreille qui a trouvé des petites similitudes avec des bandes-sons de films américains ou si c'est voulu, mais comme tu disais tout à l'heure, je l'ai remarqué ça aussi, il y a des petites choses qui ressemblent un peu à Star Wars.
Mais non, il utilise beaucoup d'airs de musique classique comme Strauss, Schubert,
des airs très connus.
Il
y a le lac des cygnes, il y a plein de trucs.
Puis, en fait, il y a du Verdi aussi.
Ouais.
Il y a toute une liste, d'ailleurs, sur Wikipédia. Si vous allez, là, ils mettent la bande-son qui est très particulière, ouais. Justement. Et un des trucs, il y a un moment qui ressemble vraiment à du Star Wars. Tu as vraiment la même musique que dans Star Wars, c'est-à-dire la scène où est-ce que Luke Skywalker essaie de monter le bateau, le vaisseau.
Son vaisseau du marais.
Oui, puis il y a Yoda qui lui dit « t'es capable », là, il est comme « non, c'est impossible, je ne pourrais jamais… » Voilà. Mais je crois qu'il utilise la même musique avec, rappelle-moi le nom du héros, là, le petit gars,
Chouya.
Chouya, OK, ouais. Avec Chouya qui marche pour retrouver la petite urine.
Oh, ouais, il est tout bandé de partout. Tu
vois, genre, t'as la même musique, puis à un moment donné, il se relève. En tout cas, si c'est...
Ouais, il pense à son père qui avait laissé le message « courage, Chouya ». Ouais, c'est vrai. Mais t'as raison, j'ai pensé la même chose à ce moment-là aussi.
Puis je pense donc que c'est une...
Je sais pas si
faut
c'est
se mettre aussi dans le contexte
ou...
qu'au Japon, ils sont des grands consommateurs de musique, hein, puis ils ont beaucoup de musique rock, etc. Ils aiment beaucoup la musique classique. Mais pour eux, ça reste une musique comme... C'est pas leur musique... Ça a une autre consonance. Pour nous, la musique classique, ça a la consonance... Le classique, pour eux, ça a la consonance film américain, Hollywood.
Ouais.
Ça je suppose, en fait. Je suppose que pour eux, toutes ces musiques-là, c'est des musiques qui s'incarnent dans le contexte du cinéma. Donc, c'est pas, pour nous, il y a comme deux, trois contextes. Il y a le contexte, évidemment, du cinéma, mais il y a le contexte aussi de Radio-Canada FM. Il y a le contexte de, genre, je suis obligée d'aller écouter l'orchestre symphonique avec mon père le dimanche parce qu'il a décidé qu'il allait faire ma culture, puis l'école, tu sais. Puis, donc sur le coup, je trouvais que c'était un petit peu trop, toute cette espèce d'emballage musical-là. Mais en même temps, ça marche super bien.
Ouais.
Ça nourrit le film, ça lui donne une dimension extraordinaire. Il y a le film et il y a le travail de ce compositeur-là.
Ouais.
Il y a vraiment un travail d'assemblage. Il y a beaucoup de musique composée aussi là-dessus. C'est pas juste...
Oui. Il n'y a pas que l'utilisation de
puis
musique connue.
Ce compositeur-là, il fait de la musique pour des gros jeux vidéo maintenant, des animations. Non, c'est pas vrai du tout ce que je dis là. C'est l'Orchestre Philharmonique de Varsovie qui fait la musique des jeux vidéo.
Ça, ouais.
Oui, ce que je trouve très drôle. J'aimerais savoir le lien exact. Je sais pas si c'est lui ou un autre Japonais qu'ils ont mis en contact.
Je pense que ces orchestres, les gens vont chercher les orchestres qualifiés là où ils sont disponibles et ils ne coûtent pas trop cher.
Non,
mais
bien sûr.
Là, c'est des histoires de production.
Mais bien sûr, mais c'est quand même Japon, Varsovie, c'est quand même loin.
C'est
là.
Mais c'est
très beau, en tout cas.
Mais c'est vrai qu'à certains moments, je l'ai presque trouvé un petit peu du overkill, la musique. Mais en même temps, c'est...
Mais c'est le film et overkill.
Ouais.
Exactement. C'est pour ça que c'est bon.
Sans jeu de mots. Overkill.
Mais
c'est au même titre que... c'est bon. C'est bon, ça va. Au même titre que les acteurs surjouent un peu parfois.
Uh-huh.
Tu as cette musique qui est pas très envahissante, mais qui tout à coup a des gros accents, c'est genre de talent, c'est pour un truc qui est finalement peut-être pas autant besoin d'être appuyé. Mais c'est vraiment. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ça, vraiment.
C'est un beau travail sonore.
Ouais.
Un truc courageux. Dans ce style de film-là. Ils sont allés... C'est pas conventionnel.
Ouais.
C'est pas conventionnel.
Ouais, ouais.
C'est comme... C'est plein de musique classique, mais il y a quelque chose qui... Je veux pas rentrer dans une espèce de gros débat de sémiologie intellectuelle, je sais pas trop quoi, mais vraiment, c'est poétique. Là.
Ouais.
On dépasse le simple film d'action...
hollywoodien
avec une trame sonore bien composée, juste parfaite pour le film. Là. Il y a quelque chose de impressionniste, de dérangeant là, dans cette bande son. Là.
Ouais. Alors, encore une chose avant qu'on passe au un deuxième extrait. Il y a deux versions du film qui existent. Moi, je l'ai vu plusieurs fois là, avant le podcast.
Mm-hmm.
Je l'ai vu sur iTunes. Ils ont la version, l'édition spéciale en fait, qui est sortie récemment,
mm-hmm.
en DVD et en Blu-ray, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc qui est plus longue que la version originale. Moi, le DVD que j'ai, c'est un vieux DVD européen d'époque, qui est d'ailleurs un pressage affreux, que je trouve personnellement de très mauvaise qualité.
La version sur iTunes était meilleure.
Ah oui, clairement. Et. Mais c'est intéressant parce que l'édition spéciale ajoute quelques petits éléments par rapport au passé de certains des personnages et puis aussi renforce beaucoup l'aspect amitié aussi, tu sais, qui est présent dans tout le film.
Ouais. Ben moi ça, oui, je trouvais que ça l'ajoutait quelque chose d'autre aussi au film parce que j'avais vu ta version. Ouais. Puis là, moi aussi, la version que j'ai écoutée...
Dernièrement, c'est la version spéciale, l'édition spéciale.
L'édition spéciale.
Ça, il y a quelques scènes en plus. Il y a le passé de Mitsuko qui est un peu la slot, comme tu dis.
Oui, c'est ça. Mais ça donne une dimension.
Le passé très dur de cette fille. Il y a une partie de basket qui fait vraiment l'apologie de l'amitié, tu sais,
C'est comme un director's cut finalement. Ils avaient tourné ça. Puis au final, c'est comme dans. Ils l'ont pas mis.
Ouais.
Mais je trouvais que ça ajoutait une dimension au film. Aussi. Donc les gens qui ont vu la vieille version devraient voir cette nouvelle version-là.
Ouais, ouais, absolument.
Donc un autre extrait?
Un autre extrait, c'est parti.
Noriko, ça va? Tu t'es bien amusé? T'es avec ton amoureux, on dirait. J'en ai marre. À l'école, personne ne me respecte. Même ma propre fille me déteste. Désormais, je n'ai nulle part où aller. Je pourrais vous emmener avec moi. Je pourrais me suicider avec vous. Vous n'êtes pas tous dignes de venir avec moi. La seule qui mérite de m'accompagner, c'est toi. Si j'avais une personne à choisir, ce serait toi, Noriko. Viens, accompagne-moi dans la mort. Vas-y. Tire. Allez, courage. N'hésite pas. N'hésite pas. Qu'est-ce que t'attends? Tue-moi ou je te tue.
J'étais obligé de le faire. J'ai juré de protéger Noriko.
Oui, je sais.
Voilà, donc c'est un film qu'on recommande à tous, évidemment.
Ah, clair. Ben, en fait, que vous aimiez ce genre-là, que vous aimiez pas...
C'est un film à voir.
C'est à voir pour avoir une opinion. N'en parlez avec nous sur Twitter, sur Facebook et tout, puis on va essayer de tirer les verres du nez à Olivier, savoir qu'est-ce qu'il a aimé ou pas de ce film-là. On va peut-être ajouter, comme je disais, un petit segment à la fin.
Bon, faites attention à ça. Toi, où est-ce qu'on peut te joindre si on veut te joindre?
Ben moi, j'anime beaucoup le Twitter de 24 Quarks, donc c'est une façon des fois de me rejoindre.
Moi, j'y suis aussi de temps en temps.
Oui, toi aussi, des fois, on tweet toutes les deux puis on dit des choses un peu contradictoires. C'est très amusant d'en avoir une conversation cette semaine. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, si 24 Quarks devient un petit peu genre psychotique et tout, c'est parce qu'il y a Marie-Louise et Nick qui se cachent derrière 24 Quarks. Mais oui, j'ai aussi mon Twitter personnel, Marie-Lou. Guerrierpi sur Twitter. Ouais. Donc, c'est une bonne façon de me rejoindre.
Et moi, c'est Steadinik sur Twitter, Steadinik. Puis à partir de là, on peut me joindre sur plein de trucs différents. Tous les liens sont là. Et puis il y a bien sûr 24quarks.com, donc 24quarks au pluriel.com. Quark, ça s'écrit Q-U-A-R-K-S.
Pour ceux qui ne le savent pas.
Pas quartz, mais quark. C'est pas la même chose. Et on est sur iTunes, évidemment, et il y a donc Twitter à 24 Quarks au pluriel aussi, et puis il y a la page Facebook, on est partout, vous ne pouvez pas nous manquer.
Voilà. Bientôt Google Plus, bientôt tout le reste.
D'excuses. Et dans deux semaines, on est de retour au Théâtre Rialto, en live.
En live.
Sur live stream, et suivi de la projection du film dont on va parler, qui est La planète des singes, Planet of the Apes, l'original, l'original de 1968.
Il faut revenir à l'original parce qu'il n'y a eu que des merdes après ou des trucs moyens. L'original, il était bon. Il y a plein de choses à dire sur l'original.
Non, jusqu'au,
et venez à la, venez
jusqu'à
à la projection.
Toute dernière itération qui était
venez à la projection, le Rialto a un nouveau projecteur.
Ouais, projection HD.
C'est super beau. Ouais, ça fait
ça
du bien de voir
le
film
sur
en
grand écran.
On peut prendre la bière en plus au Rialto quand on regarde un film. C'est-tu pas merveilleux?
Ouais,
ça?
C'est super cool. Allez. Et puis, c'est une belle salle et puis il faut la faire vivre et tout ça. Et donc,
suivez-nous, on va toutes les informations sur.
Ouais, et ben voilà, on est arrivé à la fin.
Oui.
Voilà, un gros merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt. Et
petite,
on se quitte avec la bande-annonce.
La bande-annonce.
De la planète des singes. Bye bye. I can't help thinking that somewhere in the universe there has to be something better than man. Has to be. The words are Charlton Heston's. Get out a last signal! Go Earth, and we've landed! The world he finds out in the galaxy will challenge every idea you've ever had of civilization. A planet where man is the lowest order of living things, and the superior beings are apes. They build the cities, make the laws, the gods, and control the guns that hunt a race of lowly, terrified humans who run wild in the jungles, are caged in the prisons, and stuffed in the museums. 20th Century Fox transforms the motion picture screen into Planet of the Apes. Pierre Boulle's finest novel since Bridge on the River Kwai. The world gone insane, an upside-down civilization that could not be real. Yes, a world of madness and terror. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Fucker. 24 secondes.